Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous vous proposons une nouvelle émission dans la perspective des JO de Paris. À moins de 3 mois du rendez-vous olympique, c'est le moment de parler des préparatifs. Préparatifs avant la compétition pour le corps et le mental des athlètes, dont bien sûr l'engagement est le fruit de plusieurs années de travail, une masse d'efforts pour être au meilleur de leur performance le jour J. C'est là qu'interviennent les préparateurs physiques comme l'équipe médicale qui suit les futurs médaillés. Exercice, récupération, hydratation, se préserver des blessures, mais aussi gérer le stress, travailler la concentration, s'acclimater à la pression comme au décalage horaire. La compétition ne se limite évidemment pas à la quinzaine olympique, mais se prépare en amont avec toute l'équipe, toute une organisation. Alors pour comprendre ce processus, les incontournables, les acteurs, bref, ce qui est pertinent pour arriver le vendredi 26 juillet dans une forme olympique, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Priorité Santé, pour toute cette série d'émissions spéciales JO, on retrouve celui que vous avez l'habitude bien sûr de retrouver tous les mercredis pour sa chronique sport. Notre consultant désormais Sport Santé JO, c'est bien sûr Jean-Marc Sen. Docteur Sen, bonjour médecin du sport.
Bonjour Caroline, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs.
Et on va parler de la façon dont les athlètes sont accompagnés sur le plan médical. On va bien sûr parler des risques physiques, psychiques associés à la performance, comprendre aussi de quelle manière s'organise le travail du préparateur avant l'échéance. Pour cela, on retrouve en ligne Anne-Laure Morini, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes chargée de mission de réathlétisation et préparation physique à l'INSEP, l'Institut National du Sport et d'Expertise et de la Performance. Et on entend derrière vous, dans cette halle de l'INSEP, l'ambiance de cette piste d'athlétisme. On retrouvera tout à l'heure en ligne de la Côte d'Ivoire, Kiné Payard, Roméo Conné, entraîneur national de judo. Le judo à l'honneur aujourd'hui, puisque nous retrouverons également tout à l'heure Walid Kiar, sélectionné pour les JO de Paris dans la catégorie des moins de 66 kilos. Et puis on reviendra en fin d'émission sur l'épidémie de choléra qui sévit actuellement à Mayotte dans l'océan Indien. On entendra le docteur Maxime Rancécole, médecin en santé publique, conseiller médical à l'Agence régionale de santé de Mayotte.
Priorité santé sur RFI.
Les yeux braqués sur ce rendez-vous de Paris 2024, bien évidemment. Le calendrier sportif, il y a toutes ces échéances qui rythment l'actualité, championnats européens, mondiaux, tournois. Docteur Sen, est-ce que d'une certaine manière, les JO, c'est un monde, un événement à part, un rendez-vous qui a des exigences particulières, ou finalement, on se prépare de la même manière quand on est sportif pour les JO que pour n'importe quelle compétition de premier plan?
Je dirais oui et non. C'est peut-être une réponse normande.
Mais je suis habitué avec vous.
Voilà. Oui, on se prépare parce que c'est de la même manière, parce que c'est vraiment important d'avoir cet entraînement et de ne pas laisser place, bien sûr, au hasard. Et puis non, parce qu'évidemment, il va y avoir des exigences particulières. Peut-être qu'on est encore plus assidu, peut-être qu'on est encore plus concentré pour cette compétition. Donc, il y a vraiment ces deux paramètres qui sont là.
Grande fête du sport, docteur Jean-Marc Sen. Vous avez été médecin, vous, pour l'équipe de France de judo sur plusieurs compétitions olympiques. D'ailleurs, vous êtes pour cette édition Paris 2024, en quelque sorte, un réserviste. Ça consiste en quoi?
Et oui, à la retraite médecin réserviste, puisque effectivement, il existe toujours un médecin, bien sûr, titulaire pour l'équipe de France de judo. Et il va faire, bien sûr, cette compétition, mais il y a toujours un médecin de secours au cas où il se passerait quelque chose. Et évidemment, compte tenu de mon passé, j'ai été choisi pour être ce médecin de secours en cas de souci. Mais enfin, le docteur Laurent Vinclair, puisqu'il s'agit de lui, on lui souhaite tout le bien et la réussite, évidemment, pour cette compétition.
Vous avez une anecdote médicale des JO passés qui vous vient en tête, ou pas vraiment un événement notable, un moment un petit peu pas comme les autres? Bien sûr, il y a le secret médical, mais si on est là sur la place publique.
Non, mais on peut dire la fois où j'ai pris... prends conscience, on va dire, où j'étais au JO. J'étais assis, vous savez, il y a une grande halle où on fait les repas. Alors voilà, j'étais là en train de manger en face d'un grand athlète, puisqu'il s'agit de Teddy Riner.
Oui, un très
grand
athlète.
On mangeait ensemble. Et puis, un de ses amis est arrivé et est venu s'asseoir. Il s'agissait de Tony Parker.
Ça n'arrête pas.
Et puis, un petit peu, cinq minutes plus tard, un autre personne arrive et il s'assoit à la table. Il s'agissait d'Usain Bolt. Et voilà, on se retrouvait à quatre entre Usain Bolt, Teddy Riner, Tony Parker et moi. Bon, il n'y avait pas d'erreur là-dedans. Il y avait quatre grands athlètes à la table.
Quatre grands athlètes, en toute modestie. Anne-Laure Morini, la préparation physique. On va commencer par les bases de cette préparation pour le sportif. Bien sûr, ce n'est pas juste s'entraîner dans sa propre discipline, au sens où, si l'on est un coureur de fond, on ne fait pas que du fond. Quand on fait du lancer de poids, on ne se limite pas simplement à ce lancer de poids. On va dire que c'est un ensemble complet et organisé d'exercices.
Effectivement, la préparation physique, elle est assez transversale et assez complexe. Mais pour être performant, l'athlète doit être déjà dans une capacité de réitérer ses performances. Et pour préparer notamment du coup des Jeux Olympiques, ça nécessite déjà tout un chemin de qualification. Et pour cela, bien évidemment, l'athlète doit veiller à travailler sur son intégrité physique et limiter au maximum le risque de blessure. Et pour ça, ça nécessite vraiment de mettre en place au quotidien des exercices préventifs qui lui permettront justement d'être performant le jour J.
Alors, justement, éviter ces blessures, pour commencer par là, qui assure et assume ce travail de prévention pour dire, là, il y a une limite, là, fais attention. On imagine qu'il y a l'athlète lui-même, bien sûr, mais en termes d'accompagnement, qui fait ce travail de prévention ?
Alors, bien évidemment, c'est toute une équipe, hein. L'entraîneur est responsable. Des fois, il y a même des entraîneurs adjoints. Il y a toute l'équipe médicale et paramédicale, hein. Bien évidemment, dans des exercices de travail de préventif, le médecin joue un rôle important. Les kinés, les ostéopathes. Et puis, nous avons aussi des chargés de mission dans la réathlétisation et dans tout le travail de prévention des blessures. Mission dans laquelle j'exerce au quotidien également. Et donc, ensemble, toute une équipe, on va avec l'athlète identifier des axes de travail, les points forts, les points faibles et mettre au quotidien des routines préventives pour limiter au maximum le risque de blessure.
Cette préparation, est-ce que tout est sur mesure, Anne-Laure Morini, individuelle, ou est-ce qu'il y a, on va dire, des espèces de paquets par catégorie, par type de sport ?
Sur la très haute performance, on est obligé de vraiment travailler du sur-mesure. C'est comme de la très haute couture. C'est important, bien évidemment, de travailler des détails et qui sont vraiment individuels. Et c'est pour ça qu'on a, avec l'ensemble de l'équipe paramédicale, médicale et nous, des tests qui nous permettent d'identifier vraiment des axes de travail individuels. Je ne vous cache pas qu'il y a des exercices qui vont être transversaux. Il y a forcément des axes de travail qui sont peut-être communs à certains athlètes et certaines disciplines. Mais pour pouvoir vraiment faire de la très haute performance, on est obligé d'individualiser au maximum.
Ça veut dire que ce sont très, très exceptionnellement des exercices collectifs.
Il peut y avoir un travail qui est collectif, mais les intentions, c'est surtout, j'insiste là-dessus, ce sont vraiment les intentions qui seront individuelles. On peut faire le même exercice à deux personnes différentes, mais peut-être que pour le demi-fondeur, il aura une intention qui est beaucoup plus spécialisée par rapport à sa discipline, par rapport à son profil de course, contrairement peut-être à un judoka qui, lui, va devoir recontextualiser l'exercice par rapport à ses exigences qu'il a dans sa discipline et son profil.
Alors, docteur Sen, en tant qu'ex-médecin pour l'équipe de France de judo, notamment au JO, est-ce qu'il vous arrivait de freiner, de jouer un rôle on parlait tout à l'heure de ce risque de blessure, hein. Évidemment, quand on se prépare, on n'est pas loin de la compétition, c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Est-ce que vous êtes même allé jusqu'à conseiller certains entraîneurs pour éviter certaines choses ?
Ah oui, c'était... J'allais presque dire que c'était presque un travail quotidien. Si ce n'est pas quotidien, c'est peut-être hebdomadaire. Vous savez, le médecin, dans ces cas-là, va même sur le terrain. Il va dans le dojo. Hein, et on a une structure au plus proche pour pouvoir justement avoir ce lieu d'échange.
Mais c'est sur l'observation ou c'est sur la consultation de l'athlète ?
Il y a deux choses. Ouais. Il y a d'abord les deux. À la fois, bien sûr, sur la consultation. L'idée, c'est... on consulte à part, bien sûr, l'athlète au service médical de l'INSEP. À l'époque, c'était ça. Et là, on identifie le problème, on va faire les imageries, on va faire le diagnostic, évidemment, éventuellement demander d'autres examens complémentaires, mais faire un diagnostic le plus précis. Et surtout, après, il va y avoir la notion de évidemment de pronostic. C'est-à-dire que la première question que va immédiatement poser l'entraîneur, c'est combien de temps est-ce qu'il doit arrêter, combien de temps est-ce qu'il doit s'arrêter, comment est-ce qu'on doit adapter les choses. Donc c'est vraiment un travail direct. Et le médecin, c'est vrai, a un rôle assez de coordinateur entre les kinésithérapeutes, le rôle bien sûr de la réhabilitation, et puis les entraîneurs également. Ça, c'est vraiment un rôle presque quotidien.
On perçoit vraiment cette dynamique d'équipe. Anne-Laure Morignon, on vous retrouve toujours à l'INSEP. Votre engagement dans cet institut du sport français, ça date depuis 2009. Est-ce que vous avez vu les choses changer? On va dire les staffs s'étoffer, tout être de plus en plus pointu, de plus en plus précis.
Effectivement, à l'époque où je suis arrivée, moi en 2009, il y avait une vraie... L'entraîneur était vraiment un être omniscient, il travaillait sur tous les axes, il n'était pas vraiment structuré ni accompagné. Et là, l'évolution des choses ont fait qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité d'acteurs autour des athlètes. On l'a cité, on a du coup bien évidemment le médecin, le kiné, un chargé de mission sur la réathlétisation, puis y avoir des préparateurs physiques qui ont même leurs spécificités, quelqu'un qui est spécialisé sur la musculation, d'autres qui vont être spécialisés sur le travail de l'endurance, notamment au rugby. Par exemple, on peut le voir qu'il y a plusieurs préparateurs physiques dans une même équipe. On a des préparateurs mentaux, on a des nutritionnistes, on a vraiment beaucoup d'acteurs autour de l'athlète. Ça a un vrai intérêt parce que bien évidemment on a monté l'expertise de chacun des acteurs. La difficulté, c'est qu'effectivement, après, derrière, il faut coordonner tout ça. Et c'est là où l'entraîneur et l'athlète ont un vrai rôle important au milieu de cette complexité du système. Et ça nécessite que tout le monde aille dans le même sens avec des objectifs communs.
Plus d'hommes, plus de femmes dans ces équipes de préparation. Est-ce que vous avez aussi observé, Anne-Laure Morigny, plus de technologie?
Ah, totalement. En 2009, on était très, très à l'ancienne. J'avais un chrono dans les mains qui était manuel. Et maintenant, tout est bien évidemment beaucoup plus technologique. On a la chance, par exemple, avec les batteries de test que nous élaborons. Aujourd'hui, nous avons des plateformes de force. On a des caméras en 3D qui analysent les angles. On a des retours aussi directs avec la vidéo. Et là, je suis au cœur d'une salle où il y a des écrans géants un peu partout. Je suis au milieu d'une station où il y a des caméras à droite, à gauche, etc. Donc, bien évidemment, il y a une vraie technologie qui nous a vraiment permis d'objectiver ce que nous, on voyait avant à l'œil nu.
Est-ce qu'on entend ce qu'on comprend pour une échéance comme les JO? C'est l'importance, bien sûr, du physique. On insiste depuis le début de l'émission, mais bien sûr du mental, Anne-Laure Morigny. Alors, est-ce qu'il y a des périodes dédiées en préparation mentale ou est-ce que c'est vraiment une approche combinée?
Alors, pour moi, c'est complètement corps-esprit. Et là-dessus, Jean-Marc me rejoindra. Le corps et esprit, c'est complètement associé. On a beau être prêt physiquement, mais si derrière, mentalement, on n'est pas prêt, la performance, malheureusement, elle nous passera à côté. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose de complètement complémentaire. Et il est vraiment important d'être vraiment beaucoup très bien accompagné. Nous, on a la chance, c'est vrai ici, d'avoir des psychologues, d'avoir des préparateurs mentaux qui permettent d'accompagner les athlètes. Mais c'est vraiment indispensable d'avoir cet accompagnement-là.
Et c'est vrai, docteur Sen, même dans l'actualité, on a de plus en plus entendu parler de la santé mentale et du sport, notamment dans le tennis, notamment avec des femmes qui ont brisé le tabou de ce silence. Et puis, il y a eu des drames aussi dans les préparations des JO. Tout le monde garde en tête Marie-Josée Pérec, forcément, sur le craquage.
Oui, c'est vrai que ça, c'est un sujet... je suis arrivé en fin 2011-2012 à l'INSEP, effectivement, et ça, c'était un des premiers sujets qu'on a mis en avant. Il y a effectivement, comme l'a dit Anne-Laure, un service de psychologie du sport et donc des professionnels qui accompagnent évidemment les athlètes là-dessus. C'est absolument essentiel. Alors évidemment, souvent, d'ailleurs, on a cette approche en disant on va prendre la préparation mentale évidemment pour performer et dans un but, on va dire, uniquement compétitif. Mais très souvent, il faut avoir une approche bien plus globale de la santé mentale et bien sûr de l'athlète, on va dire, qui va aider à la performance, mais il faut y avoir recours aussi très souvent lorsqu'il se blesse, parce qu'il y a toujours une répercussion, évidemment, psychologique de la blessure. Et donc, dans les deux cas, vraiment, l'accompagnement est essentiel.
On va vous retrouver, docteur Sen, Anne-Laure Morigny, juste après ce témoignage. Rencontre avec l'un des judokas qui va représenter la France au JO, c'est Walid Kiar. Je suis allée regarder le calendrier, le grand jour pour lui. Ce sera le dimanche 28 juillet à l'Arena du Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. C'est en effet dans la catégorie des moins de 66 kilos qu'il va s'aligner. Tom Malky a donc rencontré Walid Kiar pour échanger précisément sur cette préparation. Préparation qu'il partage entre le Dojo de Paris et son équipe du PSG Judo. Entraînement du jour, ça se passait précisément au club d'Ivry.
J'étais un enfant assez hyperactif ou qui pensait à beaucoup de choses en même temps, qui avait du mal à se concentrer. Et ça s'est ressenti à un moment donné dans mon judo. J'avais tendance parfois à me déconcentrer et j'ai besoin de ça, d'être focus, que tout soit carré pour que j'arrive sur ce combat ultra focus et ultra concentré.
Vous, au quotidien, quelle équipe vous suit sur la santé mentale et sur la préparation psychologique ?
Alors moi, j'ai un préparateur mental du coup depuis 2017 qui s'appelle Laurent Mességuier, qui est un ancien judoka et qui excelle dans ce domaine, avec qui on a vraiment fixé certains objectifs, des objectifs alternatifs, des objectifs plus importants que d'autres. Avant, j'avais tendance à m'éparpiller et me concentrer sur des choses qui n'avaient pas d'importance. Donc j'ai priorisé et j'ai recentré le judo au cœur de tout.
Dans la carrière d'un sportif, l'une des choses qui peut faire peur, c'est souvent la blessure. Ouais. Vous, comment vous l'appréhendez ?
Ça fait partie du jeu, en fait. Si on se concentre que là-dessus et qu'on veut faire attention à tout, je pense que c'est le meilleur moyen de se blesser. La plupart du temps où je me suis blessé, je sentais que j'allais me blesser. Du coup, mon cerveau, je pense, a donné de mauvaises informations à mon corps, je sais pas. Mais je sais qu'il y a pas mal de fois où je dis « Ah, aujourd'hui, je le sens pas » et tout, et je finis par me blesser. Et aujourd'hui, au contraire, je fais l'inverse. Je sais que j'écoute mon corps, je fais confiance à mon corps et je sais que quand il est fatigué, je le ressens. Et je sais que c'est comme ça que je me sens bien et c'est comme ça que je garde ce niveau de constance et de rigueur tous les jours.
Sur le suivi, il y a aussi un suivi, je crois, de la nutrition, surtout quand on est judoka. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu les contraintes de poids auxquelles vous êtes soumis dans ce milieu-là ?
Alors c'est marrant cette question parce que on va dire quasiment la totalité de ma carrière jusqu'à 2021, j'avais toujours fait des régimes, je perdais énormément de poids, j'étais suivi par une nutritionniste, je perdais entre 5 et 6 kilos pour chaque compétition. Et passé mes 24 ans, j'ai changé de catégorie, je suis passé dans la catégorie du dessus. Donc à l'inverse, au lieu de perdre du poids, j'avais besoin de prendre du poids, j'étais un peu trop léger. Donc déjà, on se pose de nombreuses heures avec cette nutritionniste. On voit ce sur quoi on peut faire la différence. On a des tests aussi avant, on a une DEXA. C'est une sorte de machine dans laquelle on se met et qui nous scanne de haut en bas et qui calcule notre masse musculaire, notre masse de graisse, enfin toutes ces choses-là. On fait des bilans environ toutes les 7 semaines. On se repèse, on refait certains examens pour savoir si on a perdu en masse grasse, si on a pris du muscle.
Donc vous êtes pesé avant la veille et le jour de chaque compétition. Et si jamais vous changez de catégorie de poids, c'est un peu la cata.
Arriver à la compétition, de changer de catégorie, c'est pas possible. En fait, il y a un nombre limité de places par nation sur chaque compétition. Donc en fait, on peut pas changer de catégorie comme ça parce qu'on se qualifie dans une catégorie mais pas dans l'autre. Donc déjà, ça c'est un point super important. Donc il y a cette pesée à 16h30, on est super ravis qu'elle soit à 16h30 parce qu'à un moment donné elle était à 20h, ça nous faisait dormir très tard, le temps de digérer toutes ces choses-là. En général on fait deux repas après la pesée, le premier repas à 16h30, directement après la pesée on se réhydrate, on boit bien, on a tous ces apports-là qu'on doit avoir à ce moment-là où on est suivi aussi. Notre nutritionniste elle nous accompagne à la pesée, elle nous donne ce qu'il faut boire, manger, donc on fait attention. Donc c'est bien. Donc voilà comment se passe une pesée. Et si jamais on n'est pas au poids sur cette repesée, on est automatiquement disqualifié de la compétition. C'est des choses qui arrivent aussi.
Vous, ça vous est déjà arrivé ?
De ne pas être au poids, non.
Et le sommeil aussi est important pour
Le sommeil, c'est ultra important. On sait que la veille de la compétition, en tout cas c'est l'expérience qu'on a nous sportifs, je pense que les sportifs comprendront ce que je dis, c'est que la veille de la compétition, on ne dort pas beaucoup. J'ai déjà fait des compétitions, j'ai pas dormi de la nuit presque et où j'ai été performant parce que la nuit d'avant j'avais super bien dormi. Donc moi c'est la nuit de la pesée, donc de la nuit l'avant-veille, où je mets le paquet sur le sommeil pour pouvoir, peu importe ce qui se passe, être performant quand même le jour de la compétition.
Est-ce que vous avez un moment de relâche quand même après les compétitions ?
Bien sûr, franchement c'est important. Moi je pense que tout athlète, tout sportif doit couper à un moment donné. sinon on explose. Moi, j'ai toujours ressenti ce besoin-là. Je suis d'une famille qui aime bien la cuisine, qui cuisine énormément, qui aime se retrouver en famille. Et à l'époque, de quand j'étais en moins de 60 kilos, j'essayais de garder un repas où je pouvais me faire plaisir par semaine. Et dès que je suis monté en 66, j'ai gardé ce repas par semaine. Donc en général, c'est une fois par semaine où je me fais plaisir.
Tout est prévu. Et comme c'est le cas pour Walid Kiar, hein, qu'on vient d'entendre au micro de Tom Malky, Anne-Laure Morini, lorsqu'on concourt pour son propre pays, dans son propre pays, est-ce que c'est à vos yeux un facteur de stress supplémentaire, de pression supplémentaire? Bref, être français au JO en France, est-ce que ça complique encore le travail des sportifs?
Ah, c'est sûr qu'il y a une ferveur qui est beaucoup plus importante qu'on a pu vivre à Tokyo, à Rio, à Londres ou sur les autres Olympiades. À domicile, ça amène forcément un stress plus important pour les athlètes, mais c'est un stress qu'il faut vraiment utiliser comme quelque chose de positif, comme une adrénaline qui va finalement peut-être nous porter et aller beaucoup plus loin que ce qu'on pensait être capable de faire. Donc c'est un stress, mais pour moi, qui doit être positif.
L'esprit et le corps, docteur Jean-Marc Sen, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, qui est discuté avec les athlètes et le médecin? Comment ça se passe? Est-ce que parfois, des fois, une véritable vedette de la compétition arrive en disant « en ce moment, il y a ça qui ne va pas ». Comment on va travailler dessus?
Oui, il y a un vrai... Alors, j'ai écouté Walid Kiar, et évidemment, c'est un athlète que j'ai bien connu, puisque il était à la période où j'étais encore avec le judo. Et c'est vrai qu'une des choses se passe vraiment sur le tapis, au bord du tapis, plus exactement. Mmh. Au bord du tapis, où il est vraiment important d'avoir une présence quasi quotidienne du médecin au bord du tapis et d'échanger avec l'athlète, avec les kinés aussi, les kinésithérapeutes, parce que en fait l'athlète va évidemment parler, va dire voilà, j'ai tel souci. Et puis je faisais aussi très attention aux signaux faibles, c'est-à-dire que quelquefois il existe par exemple des petites douleurs, de blessures anciennes, d'articulations anciennes qui arrivent.
L'historique.
Et ça, c'est souvent des signes de fatigue. C'est par ce biais que la fatigue apparaît. Et là, l'idée, c'est de regarder, de se poser, effectivement, et de voir comment, éventuellement, on peut poser une charge de travail en moins. Et puis, bien sûr, on parlait du mental tout à l'heure, s'intéresser au mental. Il est évident que si on a une charge mentale extrêmement importante, temporairement, pour une raison X ou Y, personnelle, familiale ou autre, eh bien, là aussi, il faut être particulièrement attentif et quelquefois, des blessures ressortent comme ça, exactement à ce moment-là. Donc, il y a vraiment, c'est intéressant de se poser et de voir tout ça avec l'athlète.
Alors, on va poursuivre notre échange. On va aussi aller en Côte d'Ivoire, retrouver l'entraîneur national de judo, lui-même ancien judoka olympique à Londres en 2012. On va se retrouver juste après un trio éphémère, Sampa the Great, Ezra Collective, Joy Anonymous, ce titre, Joy. Don't you think that I forget? I don't take no fresh. I don't take no fresh. Don't you think that I forget? They may say, they may say, make another one chance. I don't take no fresh. I don't take no fresh. Don't you think that I forget? I don't take no fresh. I don't take no fresh. Don't you think that I forget? I don't take no fresh. I don't take no fresh. Don't you think that I forget? They may say, they may say, make another one chance. I don't take seven. I don't take seven. I don't take seven. I don't take seven. Yeah. From the street to the city to the ghetto, shining from the roof where they hit it is tomato. We high, we high, you not. Don't smile now, not your ally. You was stuck a real life, you was stuck a real lie. I can hear from far, can't lie. Thought that I forgot, not my click, we see the shot. Shining from the roof where they hit it is tomato. We high, you not. Don't smile now, don't you ever. Priorité santé sur RFI, se préparer sur le plan physique et mental pour les Jeux Olympiques à moins de 3 mois de l'échéance. De quelle manière s'organise le travail du préparateur avant cette échéance olympique? Toujours avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, consultant santé sport pour notre émission pour toute cette durée des Jeux. Et avec nous en ligne, Anne-Laure Morini, chargée de mission de réathlétisation et préparation physique à l'INSEP, qu'on retrouve justement dans ce grand bâtiment, ce grand gymnase, on va dire, pour caricaturer, de l'INSEP. Anne-Laure Morini, transformer le stress en force, ça s'appuie sur des experts, tout est scruté, tout est ausculté, et j'imagine aussi que sur le plan de l'alimentation, rien n'est laissé au hasard.
Sur la partie alimentation, c'est pareil, du papier... Vraiment sur mesure, et chaque détail est hyper important pour les athlètes, notamment sur les, par exemple sur les sports à catégorie de poids, il y a vraiment une importance là-dessus. On a du coup des experts qui nous accompagnent sur des stratégies hydriques, sur des stratégies nutritionnelles, pour optimiser sa performance et pour être prêt le jour J.
Quand on dit stratégie hydrique, Anne-Laure Morini, qu'est-ce que ça veut dire?
Tout simplement boire de l'eau déjà suffisamment par rapport à l'effort que l'athlète va faire au quotidien. Bien évidemment, l'athlète s'entraîne deux fois, trois fois par jour. Donc vous imaginez bien que les sudations obligent chaque athlète à boire une quantité d'eau beaucoup plus importante qu'une personne lambda. Et donc, bien évidemment, pour éviter la perte des sels minéraux, il va y avoir des stratégies avec des alimentations et surtout des boissons énergétiques qui sont indispensables à prendre en considération.
Des potions magiques, mais tout ça, bien sûr, dans les règles pour éviter tout problème après au test antidopage. Docteur Jean-Marc Sen, c'est vrai qu'on a entendu avec le judo, cette fameuse catégorie des poids, des super légers aux lourds, c'est le verdict de la balance.
Alors, c'est vrai que le poids, évidemment, c'est quelque chose d'important. Et souvent, j'insiste sur la composition corporelle. Mmh. Hein, parce que, bien évidemment, le choix d'une catégorie va être fait. Mais il faut... On a pris l'exemple de Walid Carr, qui l'a dit tout à l'heure, qui a dit, mais voilà, j'ai changé de catégorie. Mmh. Dans un cas, il fallait que je perde du gras. Et dans l'autre cas, il fallait que je prenne du muscle. Mmh. Et tout ça, faut, évidemment, ça a des implications nutritionnelles qui sont particulièrement importantes. Et puis, on parlait de l'eau. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Mmh. L'athlète peut suer jusqu'à 3 fois plus qu'une personne normale pour le même effort. Et évidemment, ça peut entraîner une déshydratation chronique. Hein. Et ça, cette déshydratation, elle peut être source, bien sûr, de fatigue et favoriser les blessures. C'est pour ça qu'on avait mis en place, avec la nutritionniste qui était venue travailler avec le judo, le contrôle des urines. Voilà, on contrôlait la densité des urines pour savoir si les athlètes buvaient assez ou pas. On avait quelquefois des grosses surprises.
Hein. Donc, peut mieux faire. On va partir tout de suite, si vous le voulez bien, pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Kinapeya Roméo Koné, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes l'entraîneur national de judo de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous-même, ancien sélectionné des JO de Londres en 2012, vous en gardez quel souvenir de cette compétition?
Je pense que c'était une très belle expérience. Et puis, se retrouver aux Jeux Olympiques, c'est pas donné à tout le monde, mais quand on se retrouve là, c'est les meilleurs qui se retrouvent. Donc c'est une grande fierté pour moi de pouvoir représenter mon pays à cette plus haute grande compétition au niveau mondial.
Alors aujourd'hui, vous avez changé de rôle, vous êtes coach. Qui sont ces espoirs ivoiriens que vous accompagnez?
Bon, nous avons Dabone Zuleya qui a déjà fait deux Olympiades. Mmh. Et nous avons Kobina Kofi qui cherche à se qualifier pour la première fois pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est les deux, pour le moment, nous avons sur la liste susceptible d'être qualifiée pour Paris 2024.
Alors, un espoir et une confirmée. C'est quoi aujourd'hui le rythme des entraînements pour vos deux champions?
Les entraînements, nous disons que tous les jours, ils s'entraînent le matin. Mmh. Et puis, le judo, on a le judo en équipe deux fois. Là, nous passons par trois fois dans la semaine. Voilà un peu le rythme. Et puis, il y a Zul qui elle, est en Zuleya qui est en France, qui continue à travailler là-bas.
Voilà. Donc, sur deux sites différents. Est-ce que vous avez observé, plus on se rapproche des JO, un changement de rythme, un changement de stratégie dans les préparatifs de ces athlètes?
Oui, puisque là, on continue à travailler toujours dans le même tempo. Mmh. Et là, nous avons les compétitions de l'Open de Marrakech à la fin de ce mois, et l'Open d'Abidjan. Et là, après ça, tout va changer, mais pour le moment, nous basons pour qu'on puisse avoir le qualificatif pour les Jeux Olympiques. Mmh. Et le reste, maintenant, après, on va encore remodifier encore l'entraînement.
Ça veut dire qu'il y a des compétitions intermédiaires. J'imagine que, justement, plus on se rapproche, en même temps, vous devez les inciter à donner le meilleur, mais en même temps, pas trop tirer sur la corde pour éviter un craquage. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour garder cette bonne mesure?
Bon, nous on n'est pas comme les pays développés. On essaie de travailler avec les moyens que nous avons.
Ouais.
Et on n'a pas, par exemple, les autres, ils ont des diététiciens, ils ont des kinés, ils ont vraiment une équipe mise en place pour suivre les athlètes. Nous, on n'a pas tous ces moyens, mais on essaie de faire avec les moyens qu'il faut pour qu'on puisse les maintenir jusqu'à cette grande compétition.
Vous disiez, vous n'avez pas tout le staff médical, on l'a bien compris. Justement, en termes de soignants, est-ce qu'il y a quand même des personnes qualifiées qui suivent vos champions au jour le jour?
Oui, il y a des personnes qualifiées. Nous avons, par exemple, l'Institut national de la jeunesse des sports qui est l'INGS à Makori. Mmh. Voilà. Et lorsqu'on a des bobos avec les athlètes, on va surtout voir l'Institut, le centre de santé qui est là-bas, qui suit vraiment les athlètes. Nous avons déjà un docteur là-bas qui est professeur de sport et médecin sportif,
oui,
qui est vraiment le docteur Langba qui les suit de près aussi.
D'accord.
Voilà.
Et en termes justement de parcours de ces athlètes, bien sûr, il y a les performances, mais il y a aussi les parcours de vie, ce qui a fait un petit peu leur quotidien. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous appuyez pour les inciter à donner le meilleur de ce qu'ils peuvent, par exemple, par rapport à leur personnalité?
Bon, nous, comme on essaie de faire avec les moyens de bord, je répète toujours, c'est les moyens de bord. Aujourd'hui, je prends Kobina Kofi Crémé, qui est professeur à l'université de Cocody, qui mm-hmm. a fait, comme l'INSET, un diplôme de sport.
Oui.
Et donc, il va au boulot, il va au travail, et puis on le prend. Donc du coup, c'est vraiment, c'est pas du judo, on fait matin, midi, soir. Mmh. Et lorsqu'il a des temps libres, on essaie de travailler avec lui. Quoi.
C'est son deuxième métier, on va dire. C'est son deuxième métier.
Voilà, c'est un peu ça. Et Yazul qui est en France, elle qui continue à travailler, surtout avec Chenet là-bas, et elle continue à faire du judo, et puis voilà.
Évidemment, on a bien compris que les moyens sont très différents en fonction des pays. Les pays du Nord qui investissent dans le sport, qui ont énormément de moyens, et puis vous, moins bien dotés. Docteur Jean-Marc Sen, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, d'abord saluer Roméo, voilà, puisqu'on a été, en 2012, on était également aux Jeux Olympiques, donc un bon jour. Et évidemment, la question, ce serait de savoir, est-ce que, par exemple, vous êtes en lien avec, il y a des tournois qui sont internationaux, et est-ce que vous échangez beaucoup avec les collègues, bien sûr, des autres équipes? Vous parliez de la France. Est-ce que quelquefois vous venez voilà, pour échanger? Est-ce que c'est quelque chose qui est également dans votre game plan?
Oui, oui, de toute façon, on échange beaucoup avec d'autres coachs. Justement, j'ai échangé beaucoup avec d'autres coachs. Et puis, des partenariats qui ont été signés avec la Côte d'Ivoire et la France. Des fois, on part pour s'entraîner. On a Kobina Trifou-Crémé qui a passé un bon séjour en France, qui s'entraînait à Ligy plusieurs fois. Donc, pour dire qu'il y a des échanges. Mais comme on dit toujours, les moyens sont toujours qui font défaut au niveau de l'Afrique. C'est pas comme toujours en Europe. Ici, c'est l'Afrique, on a tous le même problème. Et je pense que c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. On échange surtout avec les autres. Mais voilà, on est fait. C'est compliqué, c'est mais voilà.
Mais l'énergie est là. L'énergie est là. Un grand merci.
Est là. Oui, on a déjà du potentiel. Le potentiel est là. Je pense que si on a vraiment les moyens qu'il faut pour accompagner nos athlètes ou nos Africains, on va faire mouche, quoi. C'est ce que je veux dire sur le plan international, quoi. On voit un peu les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie. Vraiment, il y a de gros moyens qui sont mis pour eux.
Docteur Sen, encore un mot. Oui.
Et juste un mot de pronostic. Quand est-ce qu'on voit une médaille ou un podium d'un athlète en judo africain aux Jeux Olympiques, pour vous? Est-ce que c'est faisable?
Bon.
Ce soupir en dit long. Merci beaucoup, Kina Peya Romeo Kone. Puis vraiment, hein, on encourage Kofi Crémé pour arriver en sélection. Bonne chance aussi à Zuleya Dabone. On a entendu que vous l'appeliez Zoul. Alors vas-y, Zoul, qui elle a déjà son ticket pour Paris. Un grand merci à vous. On arrive à la fin de notre échange. Il nous reste environ 2-3 minutes. Quand on a les moyens, on l'a compris, docteur Sen, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais ça veut dire que les éléments sont là aussi d'un point de vue de préparation, de suivi, de prévention pour aller au plus haut.
Ah, c'est absolument évident. D'ailleurs, il y a des études très intéressantes qui montrent un parallèle entre le nombre de médailles olympiques et le PIB des pays.
Oui, avec les États-Unis, on imagine toujours qu'il est très très bien placé. Anne-Laure Morini, peut-être sur ce point justement, sur l'accompagnement qui est aussi qui dépend aussi directement des moyens, mais il n'empêche, il y a vraiment des pépites absolument partout sur la planète d'un point de vue sportif.
Il y a des pépites partout, effectivement, et dans tous les pays. Et puis après, c'est en fonction, bien évidemment, de différentes disciplines. En athlétisme, en Jamaïque, il y a des pépites en or. Et d'ailleurs, Usain Bolt fait partie de ce type d'athlète. Mais c'est intéressant ce que dit Roméo, parce qu'effectivement, lui, il est livré à lui-même. Il a très peu de moyens. Et nous, on est à l'inverse, dans un monde qui est complètement différent. Mais je tiens vraiment à préciser que la performance aussi tient aussi à la responsabilité de l'athlète, parce que un athlète qui est très performant, c'est aussi celui qui a différents outils, a différentes clés et qui a cette capacité avec autonomie d'assumer ses responsabilités au moment où il doit être performant. Et ça, c'est important, parce que quand on est dans un milieu comme le nôtre, l'athlète peut vite devenir dépendant de son préparateur mental, dépendant des autres. Et c'est important, et c'est pour ça que l'exemple des pays moins développés sont un exemple important, c'est qu'il y en a qui arrivent quand même à faire de la performance avec très peu de moyens, et c'est quand l'athlète est vraiment autonome. Et ça, c'est important de le préciser.
Alors, on a parlé beaucoup de cette montée en puissance des préparatifs. Un dernier point, Laure Morini. On y consacrera, hein, quand la compétition aura commencé, une émission en tant que telle. Dans ce suivi, tout ce qui est dans ce travail d'accompagnement, la mise en garde par rapport à ce qui pourrait se révéler positif au test de dopage, pas forcément parce qu'on veut gagner, mais aussi parfois simplement parce qu'on prend certains médicaments. Ça veut dire que de ce côté-là aussi, il y a des restrictions, et même y compris au niveau de l'alimentation.
Effectivement, là, les contrôles sont important, bien évidemment la France est très à cheval là-dessus et exemplaire, hein, vraiment la France là-dessus est vraiment exemplaire sur les contrôles et il faut faire attention bien évidemment à tout. Aujourd'hui on se rend compte même qu'il y a des contaminations et qu'il y a même des athlètes qui se retrouvent contaminés sans vraiment avoir pris eux ou avalé une substance interdite, donc c'est important là-dessus d'être très vigilant et là pour le coup au quotidien je mets en garde systématiquement les athlètes sur des réflexes, mais juste d'avoir chacun leur gourde, de veiller à bien la fermer, de veiller à bien savoir, hein, exactement quelle est leur gourde, comment ils doivent boire, faire attention de ne pas prendre quelque chose que quelqu'un leur donnerait comme ça. Et ça, c'est important, nous, au quotidien, de former, de sensibiliser les athlètes là-dessus, parce que, bien évidemment, les contrôles sont beaucoup plus précis et on n'a pas le droit à l'à peu près.
Et on perçoit que la prévention, elle est donc à tous les égards et à tous les moments dans cette période cruciale avant la compétition. Un grand merci à vous, Anne-Laure Morini, pour avoir répondu à nos questions, notre invitation. Même si j'imagine en ce moment, plus ça va, plus le travail s'intensifie. Et puis un grand merci, Docteur Sen. On n'en a pas fini avec vous. Hein,
bon.
On va vous retrouver pour notre série d'émissions spéciales. Ça sera à partir du lundi 29 juillet en direct, mais il y aura un reportage de Charlie Dupio.
Ah non.
Non, vous êtes bien là, vous n'avez pas le droit de partir en vacances. Le 26 juillet, émission spéciale pour parler de la santé des sportifs. Au jour le jour, on vous prépare un très très beau programme avec toute l'équipe de Priorité Santé. Dans quelques minutes, on va parler de l'épidémie de choléra à Mayotte. Ce sera juste après un standard. On va reprendre notre souffle. Jimmy Cliff, I can see clearly now. Le ministre français de la Santé, Frédéric Valtou, va se rendre dans quelques jours à Mayotte, le département de l'océan Indien, où plusieurs dizaines de cas de choléra ont été identifiés depuis la fin du mois d'avril. On en a parlé la semaine dernière avec un responsable de l'Agence régionale de santé. Et pour un nouvel état des lieux sur place, on retrouve maintenant le docteur Maxime Rancécole. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes médecin en santé publique et par ailleurs conseiller médical à l'ARS de Mayotte. Je précise que cet entretien a été enregistré juste avant notre direct du jour. Alors, docteur Rancécole, quelle est la situation au moment où nous parlons dans le territoire en termes de cas de choléra identifiés ?
Aujourd'hui, nous en sommes toujours à 39 cas confirmés, sachant que ces données sont susceptibles d'évoluer parce que, comme vous le dites, on a une circulation qui existe sur le territoire et qui fait qu'on découvre des nouveaux cas quotidiennement ces derniers jours. Nous avons identifié initialement quelques cas importés qui venaient notamment des Comores et d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, il y a quelques cas autochtones qui sont apparus. Nous avons dû donc faire évoluer notre doctrine pour mettre en place des mesures d'endiguement. On continue à lutter contre l'introduction, mais surtout, on essaie de limiter la circulation. Donc, la plupart des cas sont très localisés. Donc c'est à Kungu. Et donc, on a mis en place sur zone une stratégie de vaccination de masse et de recherche active de cas pour pouvoir maîtriser au mieux ce début de circulation.
Combien de personnes sont aujourd'hui hospitalisées pour choléra ?
Là, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle combien de personnes sont hospitalisées. Nous avons des capacités d'environ 30 lits aujourd'hui disponibles, ce qui est suffisant pour absorber les flux.
Est-ce que des investigations sont en cours justement pour certifier l'origine de la contamination ?
Alors oui, des investigations sont en cours. Nous, on réalise autour de chaque cas, nouveau cas de choléra, une enquête environnementale. L'idée étant d'identifier effectivement si on arrive à mettre en évidence une zone où les gens se seraient contaminés. C'est en réalité très difficile, puisque par exemple, là, sur une rivière, des prélèvements peuvent être négatifs, même si elle a participé à la circulation. Mais nous, systématiquement, l'Agence régionale de la santé, on met en œuvre une stratégie en trois parties autour d'un cas. Une approche individuelle qui vise à traiter la personne et son entourage très proche. Une approche collective qui vise à vacciner un peu plus largement autour de ce cas pour protéger les gens qui ont les mêmes habitudes que le cas index, qui permet de les protéger au cas où ils soient contaminés, notamment autour d'un point d'eau. Et une stratégie environnementale qui vise à désinfecter le foyer et les zones alentour et à réaliser des enquêtes pour comprendre, nous, d'où provient cette contamination.
L'alerte remonte à un petit peu plus de 15 jours. Est-ce que cette situation a conduit à installer des assainissements sur les sites concernés ? On a bien compris qu'il s'agissait d'habitats extrêmement précaires. Si ceux-ci n'étaient pas équipés d'installations sanitaires assurant une limitation des contaminations, je parle bien sûr de l'installation de latrines.
Alors, vous avez tout à fait raison. La stratégie en réalité qui est préconisée par l'OMS, en plus de celle qu'on met en œuvre sur la côté réactif avec la vaccination et le traitement, repose sur une approche préventive. Donc effectivement, ces quartiers sont sensibles de ce point de vue-là, et c'est pour ça que effectivement le germe peut circuler, c'est parce qu'il y a des accès à l'eau plus difficiles et des assainissements qui sont moins bien structurés. Des systèmes d'accès à l'eau potable ont été mis en œuvre avec des rampes, donc c'est de l'accès à l'eau gratuit, des bornes fontaines monétiques qui permettent un accès à l'eau à prix coûtant, et parfois l'installation de citernes dans des zones où c'est trop difficile d'accès, où on est trop loin de rampe. L'idée est donc de répondre à ce premier sujet d'accès à l'eau potable qui est très important. Par contre, sur le versant assainissement, c'est beaucoup plus difficile puisque ça nécessite des infrastructures qui ne peuvent pas être construites en période de crise, qui nécessitent des plans d'urbanisme, qui nécessitent la venue d'entreprises et aussi une volonté politique. C'est très difficile de répondre dans l'urgence et la mise en œuvre des toilettes sèches est très complexe parce qu'en fait, elle nécessite une logistique qu'on ne pourra pas assurer dans la suite et donc ce serait en fait se créer plus de problèmes qu'autre chose de mettre des solutions comme ça très peu adaptées à notre territoire.
Dernier point, Dr Maxime Rancécol, est-ce que la mobilisation pour le choléra a conduit à suspendre d'autres prises en charge médicales sur place ?
Alors non, bien évidemment, au niveau hospitalier, l'hôpital continue à prendre en charge de la même manière l'ensemble des autres patients. Il a construit une filière dédiée au choléra pour justement ne pas interférer sur les autres filières. Et nous continuons également à porter des actions autour des autres pathologies qui peuvent poser problème, fièvre typhoïde, hépatite A, qui sont des pathologies endémiques du territoire et pour lesquelles le suivi continue à se faire. C'est bien évidemment plus difficile, comme vous l'imaginez, on a dû orienter une partie de nos ressources, mais on continue et on continuera à le faire pour protéger les populations et ne pas laisser apparaître de surproblèmes.
Un grand merci à vous, Dr Maxime Rancécol, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Et merci à toute l'équipe. Demain, on va parler d'éducation à la sexualité. Il sera question de vie affective, relationnelle, de la connaissance du corps et de son fonctionnement, avec des approches différentes, bien sûr, qui s'adaptent à l'âge des enfants. Un apprentissage essentiel, notamment en matière de prévention. On en parlera avec nos invités dès 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.